Bonjour à tous. Ah, enfin, je crois que vous l'avez vu, c'est le retour des paquets de cigarettes, des canettes sur les trottoirs. Ce qu'on a un petit peu moins vu, ce sont des décrets pour autoriser l'ouverture de la chasse le plus vite possible afin de relancer patriotiquement l'industrie de la cartouche. Car c'est quand même vrai que les animaux ont eu la paix pour se reproduire, les oiseaux ont tenu les premiers pupitres de l'orchestre et tout cela est franchement insupportable. La vraie vie vroom-vroomesque et réchauffante qui nous envoie dans le mur, cette vraie vie enfin reprend. Alors vous avez aussi de nouveaux tests qui sont effectués par nos concitoyens depuis quelques jours. C'est le lâcher, le jet de masques usagés. Des gens les déposent sur les trottoirs, dans les caniveaux, en espérant qu'ils vont se planter eux-mêmes, s'enraciner pour donner un arbre à masque la saison suivante. Et ainsi, on récoltera dessus de nouveaux masques propres pour se protéger des prochains virus. Et ben voilà, cette culture du masque, donc, qui consiste en gros à dégueulasser l'espace public pour ne pas salir les poubelles, ce qui part d'une gentille attention pour les poubelles, est rarement suivie de succès. Les guides de jardinage de masques sont assez unanimes. On ne fait pas pousser des arbres à masques en les abandonnant à même le sol ou sur une aire autoroute, comme on le fait avec son enfant après 2 mois de confinement. Sauf à aimer l'idée qu'un balayeur, un éboueur, un égoutier, bien plus digne que vous, se baissera, perdra du temps, prendra des risques à ramasser nos fientes. Alors aussi, je pense qu'il vaut mieux les glisser dans une poubelle qui ne devrait pas trop vous en vouloir. Au menu de ces carnets de nature de CO2 de mon amour, vous aimez la poste, vous aimez votre facteur, alors nous rendrons visite à Ferdinand Cheval. Oui, le facteur Cheval, homme de la nature, dans la Drôme, à Haute-Rive. Le palais idéal vient de rouvrir cette semaine. Et puis en première partie, direction la Seine-Saint-Denis, la ferme urbaine, une zone sensible, oui, sensible car le vivant cohabite très bien avec les hommes à Saint-Denis, avec Olivier Darnay, aujourd'hui Nature en ville.
Voilà, bonjour les filles. Bonjour les filles de Saint-Denis, là. Combien d'abeilles, Olivier Darnay?
Voilà, t'as à peu près 1 million d'abeilles.
1 million d'abeilles, d'accord. Et plus celles qui sont sur le toit de la mairie de Saint-Denis. Oui. Moi, je les ai rencontrées il y a 19 ans.
Oui, ça fait depuis 96, ces histoires de pollinisation de la ville. Et effectivement, il y a des abeilles sur le toit de la mairie de Saint-Denis depuis 2000. Et aujourd'hui, on a 120 ruches à peu près sur Saint-Denis.
Et alors là, nous sommes sur un lieu donc, qui n'est pas exactement à côté de la mairie de Saint-Denis. C'est vrai que c'est un très grand territoire. Donc nous sommes avenue de Stalingrad. Et où sommes-nous exactement?
On est sur la zone des Tartres, sous un avion. Et qui est un lieu de patrimoine parce que c'est devenu la dernière ferme du 19e siècle, encore en activité aux portes de Paris. C'est une ferme qui a toujours été une terre de production de légumes. Et c'est devenu aujourd'hui finalement un triste vestige de ce passé maraîcher.
Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a maximum 3 jours d'autonomie alimentaire en Ile-de-France aujourd'hui.
Ah oui, oui. Alors nous, avec nos petits bras, on est juste sur 1 hectare de production alimentaire. Mais c'est déjà un lieu de résistance et effectivement, ça devient un lieu de transmission. Oui.
Saint-Denis la Rouge, Saint-Denis l'Ouvrière, Saint-Denis aux très nombreuses communautés qui fit partie de la ceinture maraîchère nourricière de Paris. Et puis il a fallu loger des gens. Alors on a saupoudré la terre de parkings, de supermarchés, on a asphalté les carottes, les salades et les poireaux, mais un coin de terre a toujours résisté. Je vous emmène avec Camille Blanès qui a réalisé ce reportage et Jérôme Boulet l'émission dans la dernière ferme du 19e siècle toujours en activité. On est en permaculture au nord de Paris et Olivier Darnay, c'est le créateur du miel béton. Un pionnier, ouais, parce que c'est lui le premier à avoir fait une place aux abeilles en ville. Olivier est un artiste plasticien qui fait le pari du parti poétique.
Parti Poétique, c'est un collectif artistique que j'ai monté en 2003. Ouais. Et l'idée, c'est pas tant de transformer un collectif d'artistes en collectif de maraîchers. Ça fait 20 ans, en fait, qu'on travaille en collaboration avec les abeilles sur un lien entre art et environnement. Puis là, depuis 3 ans, il y a quelque chose qui nous chatouille. C'est la façon de considérer l'alimentation comme un fait culturel majeur. Et du coup, depuis 3 ans, on travaille plutôt sur quelque chose qui est une sainte trinité entre nature, culture, nourriture. Voilà. C'est ça qui nous anime aujourd'hui. Et on considère que la ferme, du coup, devient un espace politique privilégié.
Et il y a aussi le fait que ce soit en banlieue, que ce soit à Saint-Denis. Et là aussi, ça veut dire quelque chose.
Des fois, on se demande qui est en banlieue de qui. C'est-à-dire qu'on se demande des fois si c'est pas Paris qui est en banlieue de Saint-Denis. C'est-à-dire que...
Bien sûr.
C'est... Non, mais c'est un territoire tellement amplifié.
Et Paris qui est la banlieue de la province.
Je pense, oui. C'est-à-dire que des fois, même, on est des fois en banlieue des idées. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse en étant ici, d'abord, c'est on n'a pas le choix. C'est-à-dire que j'y suis né. Donc, comme ça, c'est réglé. Après, on décide d'y rester. Et moi, en l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est la notion de territoire amplifié. C'est-à-dire qu'en fait, la Seine-Saint-Denis, puis Saint-Denis, d'une certaine façon, qu'en est une des centralités, ce qu'elle amplifie, c'est à la fois les difficultés et les solutions. Mais les solutions, elles sont du côté, par exemple, des 135 nationalités qui font Saint-Denis, quoi. Certains considèrent que c'est une difficulté d'avoir à gérer autant de pluriel. Moi, je considère que c'est une chance.
Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez pratiquement 135 variétés, ou 140 variétés ici, je crois, entre les légumes, les agrumes, etc.
Et les humains. C'est-à-dire qu'on considère que tout est un grand tout. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'un côté la biodiversité et puis d'un autre côté la biodiversité culturelle. On considère que c'est un ensemble. Et cette biodiversité culturelle, elle est aussi enrichie d'une biodiversité culinaire. C'est-à-dire que l'interpellation qu'on fait des fois à certains chefs, et notamment à Alain Ducasse qui s'est associé au projet qu'on monte ici à Zone Sensible, c'est le fait qu'on a le sentiment des fois que la haute gastronomie ne peut pas franchir le périphérique. Ce qui nous chagrine parce qu'il n'y a quasiment pas de restaurants étoilés en banlieue alors que c'est un territoire de production de nourriture, de mangeurs. Et c'est ça qui va nous intéresser ici, c'est de considérer à la fois le sol, l'assiette et le paysage comme un territoire de biodiversité à partager. Ouais.
Alors ça, vous ne le voyez pas, mais nous, on est entourés de plein de centaines de milliers de petites abeilles, donc d'étoiles. Mmh. Elles sont là.
C'est comme des larmes de miel dans la lumière, quoi. Elles attrapent ça depuis 20 ans, mais finalement depuis 80 millions d'années, parce qu'elles étaient ici bien avant la ville, quoi.
Et ces insectes vous ont raconté quelque chose. Elles ont commencé à murmurer à l'oreille d'Olivier Darnay, et c'est là aussi que vous avez eu une espèce de révélation.
En fait, elles ont... Je ne sais pas si je peux le dire à mon grand âge, que je n'ai pas encore, mais elles ont quand même un peu changé ma vie. C'est-à-dire que moi, j'étais producteur d'images dans l'espace public. J'intervenais comme un plasticien, un faiseur de signes, et je me suis retrouvé du jour au lendemain à être un faiseur de miel, qui n'est rien d'autre qu'une image de la ville, sauf que c'est une image de la ville qui se mange. Donc j'ai pu du coup proposer à mes voisins de manger la ville qu'ils habitaient, et ça a tout changé.
Oh, qu'on est bien là. Et alors, on va quand même poser le décor. Autour de nous... Des tours, pas forcément de 25 étages.
Non.
Voilà. On est sur quel coin de Saint-Denis ?
On est à la banlieue de Saint-Denis, c'est-à-dire qu'on est à la limite de Stein, Pierrefitte et Saint-Denis. Donc on est sur un lieu qui historiquement s'appelait la Plaine des Vertus, qui était une plaine légumière. On avait des laboureurs de légumes qui, au 19e siècle, nourrissaient les Parisiens. Ils venaient de là, légumes. C'était vraiment un circuit très court. Et ça allait voilà, de Stein, Pierrefitte, Saint-Denis jusqu'à Aubervilliers. Et puis le Grand Paris a fait son travail, et puis avant même la pression foncière des années 50, a fait que d'étape en étape, les maraîchers, pour eux, c'était plus intéressant presque de vendre leurs parcelles que de vendre leurs légumes. Puis Rungis est arrivé, il y a eu la cité des 4000 à la Courneuve, et à un moment, les maraîchers n'ont pas fait le poids, donc ils sont passés de 500 familles de maraîchers au 19e siècle à plus qu'une quarantaine dans les années 60, et plus qu'un. En 2016, il s'appelait René Carsanté, il est toujours vaillant, et en 2016, il avait 76 ans. Et la ville, en 83, avait acheté la ferme pour préserver le maraîcher, donc c'est un acte politique, finalement, cette histoire-là.
Hein. Complètement, parce que pour résister aux promoteurs, c'est pas de la tarte.
Exactement, donc c'était assez radical, puisque du coup, la seule façon de protéger l'exploitant, c'était de faire en sorte que la ville le protège d'une certaine façon, et ensuite, il y a eu 4 générations de maires communistes qui ont maintenu ce protectorat, finalement. Ouais. Et lorsque René a décidé de prendre sa retraite à 76 ans... Le maire s'est posé la question du devenir de cette ferme et donc la ville a lancé un concours.
Oh, ah bah alors là on a fait de la récupération de l'onduline. Hop, on rentre dedans. Qu'est-ce que l'on voit effectivement ?
C'est une chambre de pollinisation, c'est-à-dire qu'on a récupéré d'anciens silos agricoles qui stockaient du grain. Et nous on va y installer 1 million d'abeilles. On va faire en sorte que ce lieu de stockage stocke un butin, hein, parce que dans le mot butinage il y a butin, donc nous on fait du butin. Mais on le partage.
Mais alors, attendez, que je comprenne bien, parce que là, on a une arène.
Une arène pour reines.
Une arène pour les reines. Et là, il va y avoir des ruches.
On va installer une douzaine de ruches, donc à raison de 80 000 abeilles par ruche. Selon les organisateurs, très vite, ça fait du chiffre. Et on a quelque chose qui va être une sorte de cheminée de pollinisation, ouais. Qui va du coup cracher ces petites abeilles qui vont considérer ce lieu, cette arène, comme leur centralité. Elles vont rayonner depuis cet endroit-là. Voilà. Et donc ça va être un rucher, ce qu'on appelle un rucher communément depuis le Moyen-Âge. Donc c'est un ensemble de ruches. À ceci près que celles-là ne transhumeront pas. Elles vont polliniser sur 3000 hectares autour d'ici.
Mais en même temps... Les habitants de Saint-Denis, peut-être même moi d'ailleurs, on peut venir s'alimenter.
Oui, c'est un peu l'objet. Alors, ce qui est troublant aujourd'hui, c'est que la véritable centralité du quartier, c'est pas nous, hein, c'est pas la ferme. La véritable centralité du quartier, c'est l'enseigne là-bas avec un M jaune de McDonald's. Elle est là la centralité.
Ah, parce c'est que... dingue, ça se joue absolument.
On a un voisin magnifique.
On a deux mondes là.
On aurait voulu, on l'aurait pas pu. Mais disons qu'il était là, on n'a pas réussi à les enlever. Et donc, ils font partie du paysage. Et quand je dis que ils sont la centralité, c'est qu'effectivement, dans un lieu comme celui-là, qu'on appelle la zone des Tartres, tristement, ces endroits de restauration deviennent des lieux de rendez-vous. Ouais. Et la ferme, finalement, je me rends compte que peut-être même au-delà de ce que l'art a réussi à faire, d'une certaine façon, la ferme répond à des sujets et des questions que l'art contemporain n'arrive pas à résoudre. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est de générer des points de connexion entre les deux. C'est pour ça qu'on a considéré que Zone Sensible était plutôt un centre de production d'art et de nourriture, et que le principe de ce lieu, c'est pas seulement de produire des légumes, bien sûr, c'est d'être à la hauteur de cet engagement. Là, on a commencé par recruter Franck Pontier, un chef maraîcher, plus une équipe, et maintenant, ce qui nous importe, c'est de mettre en résidence pas seulement des légumes, mais aussi des cuisiniers et des artistes. Et donc, on a créé une bourse d'art contemporain pour justement mettre en place les conditions d'une résidence ici pour des artistes.
Oh, bah alors, on a des corbeaux qui s'intéressent aussi. Enfin, le corbeau est opportuniste, de toute façon. Donc.
Alors, le corbeau déplace les doses de mayonnaise et de ketchup de McDonald's jusqu'à chez nous, quoi.
C'est-à-dire qu'il ramasse les déchets et vous les balance chez vous.
C'est sympa, oui.
Non, c'est pour vous faire découvrir un autre type de nourriture, c'est ça?
Ouais, puis on va surtout inventer des recettes de pâté de corbeau, ou je sais pas, on va trouver un truc.
Ah, oui, oui. Hein, le corbeau? Ça va finir en pâté? Olivier Darnay, donc il y a ce titre, Zone Sensible. C'est aussi la sensibilité des uns et des autres, celle des abeilles, celle des humains, celle des artistes.
Ce que j'ai toujours trouvé triste, c'était la caricature désarmante de certains journalistes à considérer une zone sensible comme une zone de danger, voilà, une zone à risque. Ce qui, a priori, quand même, est une contradiction incroyable. Si je vous appelle, si je vous considère comme une zone sensible, j'en suis à deux doigts d'avoir envie de vous caresser. Donc, une zone de sens et de sensibilité, c'est a priori ce qu'on a de mieux à proposer. Et donc, voilà, un peu comme un contre-pied, un contrepoint à la façon de considérer le sensible comme un danger, hein, comme une zone à risque. Nous, on a le sentiment qu'une zone sensible, c'est peut-être la plus belle façon d'imaginer une hospitalité. La réalité économique des gens du quartier fait que ils ont bien un certain nombre de questions à résoudre pour arriver à la fin du mois.
Bien sûr.
Et donc, la plus-value d'un légume bio ne se pose pas dans un quartier comme celui-là. Donc, on doit, en fait, en gros, on peut évidemment, comme c'est le cas, travailler avec des chefs parisiens, des chefs étoilés, c'est formidable. Ça finance d'une certaine façon un peu une partie de notre action au Robin des Bois, hein. C'est-à-dire que on va chercher les moyens là où ils sont et on fait en sorte d'obtenir une sorte de clé de répartition et qui permet, en gros, alors à chaque fois qu'on livre des légumes à des chefs parisiens, on leur met une taxe qui permet en fait de financer des paniers solidaires, c'est-à-dire qu'ils payent 3-4% en plus et ça permet en fait de financer la gratuité de paniers qui permettent du coup à des gens du quartier qui n'ont pas les moyens de manger un panier de légumes quand on s'inscrit à une AMAP à 15 euros le panier. C'est des choses qui sont quand même compliquées à sortir dans une fin de mois. Et donc on arrive du coup par cet intermédiaire-là à financer par des restaurants étoilés des légumes qui irriguent un peu le quartier.
On y retourne d'ici 3 minutes, on n'a pas fini de biner la terre, non, avec Olivier Darnay.
Oh.
Allez, allez, il met son clignotant, il va faire son créneau dans la playlist. C'était Métronomie, The Light. Et ben nous, la lumière, on va la retrouver du côté de Saint-Denis, dans cette terre vivrière avec des abeilles ouvrières. Quartier de la Mutuelle, petit pavillon, petit jardin, grands ensembles. Le McDo d'un côté, la mosquée de l'autre, le campus de Paris 8 n'est pas loin. Et nous sommes à 500 mètres à peu près du métro dans cette ferme avec ces abeilles qui sont des réfugiés chimiques. Et on va retrouver Olivier Darnay dans cette zone sensible à Saint-Denis avec nos amis les abeilles.
Moi, c'est ce qui m'émeut le plus. Hein. C'est pas de faire du miel, c'est de produire de la vie. Et chez les apiculteurs, je trouve que la plus belle chose, c'est finalement de produire un essaim d'abeilles. Et lorsqu'on a un moment émouvant, finalement, qui est de produire sa propre nourriture dans son environnement, qui est quand même un réflexe un peu oublié, et qu'on se rend compte que cet émerveillement-là, on est capable de le partager avec un gamin qui est dans une culture hors sol, hein, parce que pour le coup, ici, les enfants du 9-3, on peut pas dire qu'ils aient d'habitude à une relation végétale ou une relation animale. Ils ont pas forcément eu un grand-père qui avait un potager, qui avait un jardin. Donc on est dans un moment de transition où ce rendez-vous n'a peut-être jamais eu lieu. Un gamin de 11 ans qui arrive ici et qui considère au début que la terre c'est sale. Voilà. Et on a du coup un travail qui se fait assez vite d'ailleurs. Hein. En 2-3 séances, les enfants comprennent assez vite que d'une ce n'est pas sale et qu'il y a aussi un merveilleux dans le sol.
Alors ce qui est formidable ici, Olivier Darnay, mais c'est aussi votre nature, c'est que après le constat d'indignation, après la colère, vous transformez ça en action. C'est votre truc, vous.
Moi, je considère que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est plus... Je pense que les diagnostics sont faits sur la question environnementale.
C'est fait.
Voilà,
oui.
On sait qu'on est déjà rentré dans le mur. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le passage à l'acte. Voilà, ça va être la façon grandeur nature de montrer quelque chose comme une énergie qu'on va bien devoir investir dans autre chose qu'un désespoir. C'est-à-dire que on sait que c'est à peu près foutu, mais en même temps, dans cette version du foutu, moi, j'ai considéré que Zone Sensible était une opportunité, comme une page blanche, de considérer un hectare comme un espace de possibilité d'invention. Voilà. Il va bien falloir réinventer quelque chose qui soit un modèle autre. Et donc, ça passe par quoi ? Alors, nous, on a le sentiment que un des plus beaux terrains, c'est peut-être celui de l'art et de la culture, parce que finalement, c'est un terrain hors champ. Il entrecoupe tellement.
C'est quand même une des meilleures façons de réunir les femmes et les hommes.
Hein. Je pense. Et donc, moi, je considère que on doit passer à quelque chose qui est grandeur nature. Je pense que la ferme, c'est peut-être un très joli moyen de passer à l'acte. Et ce qui m'intéresse, du coup, c'est d'associer l'autre dans une façon, non pas uniquement d'être dans une tristesse d'expertise, mais dans une façon d'avoir de réapprendre, parce qu'on a quand même beaucoup oublié, quelque chose qui est fondamental, en l'occurrence se nourrir dans son environnement, c'est quand même pas rien, et que très vite, dans un moment de crise, l'alimentation va nous apparaître à nouveau comme une priorité.
Ah, ça va remonter immédiatement à la surface.
Ouais, très fort.
Ah, nous avons de l'oignon cette fois-ci, il est jaune. Nous en avons encore un autre. Hop, les salades sont derrière. Les poireaux sont déjà sortis. Bah oui, quand même. Les choux.
Fèves.
Petits pois. Cardon.
Oui.
Moutarde. Des aromates. Des oseilles. Des carottes. Du légume feuille, du légume racine et des fleurs.
C'est pas mal. Et puis on a de la légumineuse aussi. Hein. C'est vraiment important, ça, pour les protéines.
Ce qui est amusant, c'est que les légumes du 19e siècle étaient des légumes pour le ventre. C'est-à-dire qu'on faisait du chou des vertus, qui était un légume énorme, qui était fait pour plusieurs repas, pour plusieurs personnes. Pareil pour les oignons, donc on cherchait du volume. Parce qu'on mettait plus facilement du légume dans nos soupes que de la viande. Et donc les légumes des vertus sont des légumes, voilà, qui sont des menus, qui rentrent dans le menu ouvrier, quoi, tout simplement. Et c'est ce bon sens-là paysan qu'on doit à un moment retrouver. Alors il y a des choses un peu sophistiquées qu'on plante ici pour des chefs qui ont besoin à un moment de faire de l'orfèvrerie, mais on doit aussi nourrir les ventres, quoi.
On est bien! Ah, qu'on est bien! Oui, c'est quand même assez courageux de la part d'une mairie parce que ça a quand même une certaine valeur. Hein,
ah oui. Pour certains promoteurs, ça a même un prix, mais on considère que finalement la valeur de cette ferme n'a pas de prix. C'est ça qui est quand même drôlement intéressant.
Ouais.
Et du coup, pour essayer d'équilibrer les territoires, moi je trouvais injuste qu'en Seine-Saint-Denis, on n'ait pas de place de l'étoile. Donc, du coup, quand j'ai dessiné le jardin,
ah oui,
j'ai fait cette rosace. Ouais.
Ah, c'est joli.
On a un lieu où, depuis le centre de Zone Sensible, on arrive avec un ensemble de routes qui convergent à avoir quelque chose qui explique la permaculture, pour Franck Pontier, notre chef de culture, et qui permet depuis un point central d'expliquer la rotation des cultures, des légumes, etc.
Bon, et la terre est bonne. On va aller voir Franck. Hein. Ouais. Allez, hop.
Ah oui, la terre est bonne. La terre est bonne parce que ça n'a jamais cessé d'être une ferme. La terre est noire après une pluie. C'est une couleur incroyable. Une des tristesses a été que René Kersanté a pensé qu'il fallait être à son tour l'agriculteur de son époque. Donc à un moment, il a mécanisé son exploitation et puis de la diversité légumière qui était celle de sa grand-mère et de sa mère, parce que c'est quand même trois générations de maraîchers bretons qui occupent cette ferme, il a pensé qu'en mécanisant sa ferme et en orientant sa ferme en monoculture vers les salades, il allait trouver un modèle économique. Donc René faisait 1,5 million de salades chaque année sur cette ferme. Mais sauf qu'il avait... Il avait oublié deux, trois équations, comme celle, par exemple, qui consistait à faire en sorte que le prix de sa salade n'était pas fixé par le producteur, mais par la centrale d'achat. Donc, il vendait chaque année à perte. Et évidemment que, après, en termes de biodiversité, on a un sol qui était retourné quatre fois. Donc, les vers de terre, à un moment, on en a eu marre et ils ont eu une petite tendance à disparaître. Donc là, ils sont en train, en 1 an et demi, de revenir. C'est assez émouvant, hein, parce qu'ils étaient là, en attente, en fait.
Bonjour, Franck.
C'est ça ?
Bonjour, micro.
Denis Chassot, bonjour, micro.
Absolument. Enchanté. Bonjour, Franck Pontier.
Racontez-nous, s'il vous plaît, quand même, la diversité que l'on peut produire ici, parce que c'est toujours assez étonnant. La terre, maintenant, elle est bonne.
Ouais.
Nos petits lombrics, nos
carabes
sont là, ils sont en pleine forme, etc. et tout. Et donc, l'envie, c'est quoi ?
C'est quand même, l'idée, c'est quand même d'avoir le plus de légumes possible, parce que, comme toujours, hein, un écosystème, c'est constitué quoi ? D'une multitude, et de que ce soit des animaux ou des végétaux. Donc plus il y a de différentes espèces, et plus on va attirer de nombreux d'insectes, que ce soit d'insectes, de bactéries qui seraient des composeurs ou qui sont toujours là au sol. En fait, c'est la diversité qui fait la richesse.
Ouais.
Donc je fais le maximum justement de diversité pour créer le maximum de richesse.
On dit très souvent d'ailleurs aussi que plus un milieu est diversifié, plus il est riche et plus il sera en équilibre.
Il pourra se soigner lui-même
d'ailleurs.
C'est bien ça, il sera bien en équilibre justement. Il fait de l'automédication.
Ouais.
Et le but, c'est justement en permaculture, c'est de réussir à créer cet équilibre de l'écosystème.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette zone sensible ? Avec la possibilité, l'ouverture, la liberté que vous avez.
C'est le défi justement de réussir à faire de la biodiversité en plein cœur. Portes de Paris. Aux portes de Paris, on est justement sur un département de la Seine-Saint-Denis où c'est qu'on est en diversité, qu'on voit exactement où c'est qu'il y a soi-disant plein de problèmes, etc. Mais c'est grâce à cette diversité, justement, dès l'instant où c'est qu'on lui donne la chance, et bien c'est là où c'est que je m'éclate, et c'est là où c'est justement que je partage mon savoir. Et justement, c'est pour recréer cette cohésion qui soit humaine et qui soit surtout en lien avec la nature. Quoi.
Olivier, avant de se quitter, on va quand même dire au revoir aux abeilles. Hein. On va boucler la boucle, elles sont là.
Mais il faudrait se rapprocher, parce que finalement, on se rend compte à notre corps défendant que c'est pas si dangereux que ça.
Pardon ?
Tiens, j'en ai une dans le cou en même temps. Attends.
Oui, j'en ai une sur les cheveux, mais c'est pas grave.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, au milieu de ces abeilles, au milieu de cet hectare de terre ?
Qu'elles restent avec nous, hein, pour le meilleur et pour le pire, et avec notre esprit.
La conduite à tenir là dans ce genre de cas, parce qu'on est quand même maintenant bien cerné par toutes les abeilles.
Oui. Ouais. Sans froid, safe.
Self, donc tout va bien. Donc c'est parfait pour se dire au revoir, parce qu'on va être self jusqu'au bout. Mm-hmm. Au revoir Olivier Darnay.
Au revoir Denis.
Un lieu très enthousiasmant et ce site de production sera réouvert au public le premier samedi de juin. Saint-Denis, c'est la ville qui a eu le plus de morts du Covid en France, avec une population qui ne sait pas comment faire financièrement au début du mois. Alors cette zone sensible offre sa production maraîchère aux associations de quartier, au Secours Populaire et à la Croix-Rouge. Merci à vous Olivier Darnay et donc à toute son équipe. Et dans quelques instants, je vous emmène dans la très jolie Drôme des Collines à la rencontre du facteur cheval.
Il y a dans mon jardin secret des cailloux blancs, des pierres et des galets. Un banc pour s'asseoir et le principal, le palais idéal du facteur cheval. Comme un poème monté, pierre sur pierre et galet sur galet. Un peu désordre et même un peu bancal, le palais idéal du facteur cheval. Puisque l'homme est fait des rêves qu'il fait, je voudrais bien porter très haut ce fanal, la casquette du facteur cheval. Comme on ajoute aux idées, chacun sa pierre et chacun son galet. J'aimerais laisser ce rêve idéal quand chacun de nous dorme un facteur cheval. Comme un cadeau que l'on fait, le temps d'un rêve ou d'une éternité. Une virgule au lieu du point final, un peu de la folie du facteur cheval. Puisque l'homme est fait c'est ce bleu idéal, du facteur cheval. Quand je serai fatigué de votre monde et ses réalités, je porterai fier comme un amiral la casquette idéale du facteur cheval. Puisque l'homme est fait des rêves qu'il fait, je voudrais vous laisser. La casquette du facteur cheval, la casquette du facteur cheval.
Ah ben c'est Michel Fugain qui le chante sur France Inter dans C'est au-delà de mon amour, mais nous, on y est déjà.
Cheval, il a beaucoup modelé. C'est pas un sculpteur avec un ciseau et un marteau. Cheval, c'est, il modèle, il travaille beaucoup à la main. D'ailleurs, il a les mains qui sont brûlées par la chaux, puisque toute la matière qu'on a là devant les yeux,
c'est sert à cimenter, c'est la chaux.
Voilà, c'est la chaux. Et il faisait son petit mélange à lui, puisque Cheval, c'est vraiment un autodidacte. Hein. Il dit, puisque la nature m'a donné la sculpture, quand il bute sur cette première pierre, avec une très belle pierre qui lui appelle des formes, la nature lui donne ces formes-là, moi, je ferai la maçonnerie et l'architecture, mais je ne suis ni maçon ni architecte. Et là, ben, le grand charroi commence, c'est-à-dire qu'il ramène ses pierres avec ses formes qui l'intéressent, ses formes de la nature, et démarre cette construction.
Un écologiste avant l'heure, allez savoir. Ferdinand Cheval était un homme du 19e siècle et du premier quart du 20e. Et son rapport à la nature était vraiment direct, sans filtre, sans mots inutiles. Il imagine un palais et il a un idéal. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, un idéal, alors que très souvent notre époque gère comme elle peut son quotidien et ses acquis avec frilosité, cet homme était un réalisateur d'inutiles. Alors il comprenait pas toujours le sens exact et le pourquoi de ses rêves étranges, mais il fut hanté par les images d'un palais éblouissant, pas très grand, 26 mètres de long sur 14 de large, une hauteur de 11 mètres, enfin il a quand même été tout seul pour le faire. Il voulait unifier les peuples de bonne volonté, il voulait lancer des ponts entre les civilisations, les religions, abolir les différences, et cet homme naturaliste assurément était véritablement habité. Et Christophe Bonin a été le directeur du lieu, il continue à aimer cet homme, je l'ai rencontré dans cette drôme superbe, il faisait chaud et beau à Haute-Rive.
Je ne sais pas, Christophe Bonin, si la cloche est d'origine, elle date
aussi. Elle est d'origine.
Elle est d'origine. Ah, d'accord. Nous arrivons donc chez vous dans ce département de la Drôme, donc à Haute-Rive, et puis on voit tout de suite. Alors ce palais idéal du facteur Cheval, c'était peut-être pas son premier nom.
Non, au départ, pour Cheval, c'était le temple de la nature. C'est pour lui un hommage à la nature, à toutes les formes de la nature. Il y a le bestiaire de Cheval, on distingue déjà des animaux devant nous, là, le lion, le chien. On voit des formes qui sont, c'est difficile. Nous, ça nous fait penser à ça. Pour lui, c'était, pour certaines formes, c'était effectivement des animaux qu'il avait bien identifiés. Pour d'autres, on peut laisser place à l'imagination. Et c'est vrai qu'ici, c'est le lieu de l'imagination et du rêve. C'est le rêve de Ferdinand Cheval qui l'a concrétisé.
Alors c'est vraiment ce rêve, donc avec la donnée principale qui effectivement est la nature, puisque donc il partait dans sa tournée à pied comme facteur, il faisait quoi, 10, 15 kilomètres par jour,
plus que ça. C'est quasiment un marathonien, Cheval. Il faisait, avait pas 42, il faisait 32, 35 kilomètres, puisqu'on sait pas vraiment. Il y avait des jours des maisons où il fallait porter du courrier, d'autres jours il y en avait pas, mais la tournée en gros c'était 32 kilomètres tous les jours à pied.
Il ramenait ses cailloux.
Et il ramenait...
Enfin, ses pierres, c'est vrai.
Il choisissait, enfin, dans la nature, il avait le loisir de s'imprégner de cette nature, de ses formes, de rêver. Et il repérait des pierres qui lui plaisaient, avec des formes, ces formes mollasses, là, comme ça, façonnées par l'eau et par le vent. Ouais. C'est ses expressions. Et il retournait le soir, à la nuit tombante, chercher sa brouette, enfin, quand il rentrait, et il repartait faire 5-10 kilomètres, quasiment chaque jour, et il travaillait la nuit. Parce qu'en fait, il a commencé son palais, il avait 43 ans. Donc de 43 ans à 60 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, il a eu sa double activité.
Alors c'est vraiment un monument, on va dire, entre guillemets, gloire à l'écologie. Tous ces matériaux sont extraits de la nature et son imaginaire a été complètement baigné, imprégné dans la nature.
Oui, les matériaux, c'est un palais qui est ancré dans le territoire de la Drôme des Collines et en matière de géologie aussi, puisqu'on retrouve des pierres mollasses, les pierres qu'on trouve ici. On en a plein là devant nous, sur cette partie est, là, le début de la construction avec la source de la vie face à nous. C'est fontaine, l'eau aussi était extrêmement présente.
Oui.
On retrouve des matériaux, les tufs aussi qu'il retrouvait, ces pierres calcaires là qu'on retrouve dans les petits ruisseaux là autour de d'Autrive et sur sa tournée, le Yon par exemple, un petit ruisseau où il allait chercher des pierres, des petites formes multiples. On a du mal, l'œil a du mal à s'arrêter sur quelque chose tellement il y a de formes et d'ailleurs ces formes changent suivant la lumière et suivant les saisons, ce qui est assez formidable ici.
Aussi un certain nombre d'animaux. Là, on voit peut-être un début d'aigle, on voit des chiens, on voit des lapins, on voit des chimères aussi. Enfin, donc, il y a à la fois tout ce mélange. C'est vrai qu'André Breton donc, voyait en lui aussi une espèce de surréaliste. Hein, c'était... Et puis, donc, tous ces animaux qu'il a sûrement croisés.
Oui, tous ces animaux qu'il a eus, sont le chien, fidèle compagnon de l'homme, mais aussi parce que ici nous sommes dans le jardin potager de cheval.
Ouais.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on peut imaginer la tête de ses voisins quand il a commencé à ramener les premières pierres au milieu des salades et des carottes, parce qu'à gauche c'était un jardin potager, à droite aussi, et on retrouve quelques traces du jardin potager puisqu'on a deux citrouilles,
ouais.
Bon, façon mollasse cette fois-ci, mais devant les yeux.
On voit d'ailleurs aussi des... Là, c'est intéressant, parce qu'au niveau de la géologie, on retrouve des anciens coquillages, on retrouve qu'il a dû attraper dans des strates de terre.
Oui, les fossiles, ils parlent des temps préhistoriques où la mer devait être ici. Il y a des coquillages qui ne sont pas forcément d'ici, mais il y a des quelques coquillages fossiles. Puis il y a aussi des coquillages qui se faisaient ramener par des parents ou par des amis.
Alors, qu'est-ce qu'il a voulu faire, en fait, profondément? Ça a été quoi, au départ? Ça a été une révélation, une illumination, une idée? Ça a été en commençant à ramasser des cailloux, et après, qu'est-ce que j'en fais? C'était quoi, le point de départ?
Au départ, c'est vraiment un palais de rêves, le palais de ses rêves. Mais il a mis quelques mots dessus. Alors, nous, on y met maintenant des images, mais qui se sont faites petit à petit. Pour lui, c'est un travail de 33 ans, seul. Mais c'est vraiment un palais imaginaire, un musée, des tours, C'était ça dans son esprit.
Il l'a construit au fur et à mesure. Enfin, je veux dire qu'il n'avait pas définitivement verrouillé dans sa tête dès le début. Quoi.
Non, parce qu'en fait, on sait qu'au niveau du parcellaire, on arrive là, il y a un petit béal d'arrosage qui nous montre encore une fois que nous étions entre deux jardins potagers. Il n'avait pas la partie dans laquelle nous sommes maintenant. Donc l'eau passait ici. Et il a adossé sa construction sur cette partie qui était une limite de propriété. Donc il ne pouvait pas imaginer la forme que l'on voit maintenant, puisqu'il n'avait pas toute la possibilité.
Tout le foncier.
Voilà, le foncier, la possibilité terrasse de le faire.
Et on peut rentrer dans le palais où le songe devient la réalité. Et là, on entre dans le corps, dans le boyau de ce palais avec un couloir. Ah oui, puis dites-donc, à l'intérieur
c'est aussi. La galerie. Cheval disait, c'est les hécatombes. C'était ça.
Ah, c'est joli. C'est pas les catacombes, c'est les hécatombes.
C'est les hécatombes. Ouais. Et là, il y a une phrase intéressante qui laisse une ouverture. Ce rocher dira un jour bien des choses.
Et puis alors, si on monte à l'étage, qu'est-ce que c'est un bénitier?
C'est des fontaines. Toujours, l'eau était extrêmement présente. On l'a plus maintenant, elle n'est plus là. Mais elle était extrêmement présente pour Cheval. Et toutes les fontaines, toutes les sources, ouais. Pour lui, c'était la fontaine des Laveuses qu'il y a là, juste de l'autre côté, le temple hindou. C'est aussi toute l'histoire de l'humanité qu'on retrouve ici. Il y a un certain équilibre dans les formes. Et comme Cheval est un autodidacte, naturellement, il y a une symétrie qui s'est faite par rapport à la source de la vie, que nous avons vu, qui a commencé. Là, on est au dos et on voit au dos de la source de la vie, il y a l'arbre de la vie. Donc l'eau présente avec la vie, les animaux, les formes aussi, les formes des arbres. On est passé là devant un arbre qui symbolisait peut-être le cèdre géant qui est pas très loin d'ici, le cèdre centenaire. Ces formes aussi qui nous font penser à Gaudi, ces formes de lierre comme ça. Il y a eu une exposition qui faisait ce rapprochement entre Gaudi et Cheval, contemporains qui ne se sont bien entendu jamais rencontrés, mais tous les deux architectes de la nature, avec vraiment toutes ces influences et cette inspiration liée à la nature.
Le Palais Idéal a réouvert. Frédéric Legros et son équipe vous attendent à Haute-Rive dans la Drôme. Les archives de CO2 Mon Amour et les podcasts sur franceinter.fr. Le Twitter, Denis Chessou. Demain, 13h20, deux pages nature. Je vous emmène dans le brillant Sonnet à la découverte du casse-noix moucheté et Jean-Marie Pelt dans son jardin de Lorraine. Très bon samedi à tous.